Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
À l'écoute de RDWA sur le 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr, je suis en compagnie de Jean-Pierre Rambaud. Bonjour.
Bonjour.
Alors, il vient de nous arriver une galère technique que les auditeurs évidemment n'entendront pas, mais on va essayer de se relancer dans cette interview malgré tout. Vous représentez le collectif de défense de l'hôpital de Die, que j'espère quand même les gens dans le territoire commencent à connaître. Collectif de l'hôpital de Die dont nous avions commencé tout à l'heure à retracer un petit peu l'historique. Jean-Pierre Rambaud, vous en êtes à son origine. Est-ce que vous pourriez nous faire un petit historique rapide ?
J'en suis à l'origine, oui, mais avec Jean-Louis Simon, qui représentait la mairie à ce moment-là, c'était en 1986. Et le préfet de la Drôme, qui avait compétence, avait écrit au président du conseil d'administration de l'époque « Je vous demande de faire fermer les quatre lits de maternité de l'établissement d'ici au 1er mai 1987, s'appuyant d'ailleurs sur le nombre de 300 accouchements par an. » Et nous avons agi au sein du conseil d'administration, mais nous nous sommes dit « ça ne suffit pas ». Il faut que la population soit informée, soit au courant. Et donc, nous avons fait une réunion publique, d'où est sorti ce collectif de défense de l'hôpital de Die, où tous ceux qui l'ont souhaité, quelle que soit leur couleur politique ou même des simples citoyens, se sont réunis et ont fondé ce collectif de défense qui existe toujours.
Oui, parce que rappelons, vous étiez conseiller général à cette époque. Il y avait un représentant de la mairie qui d'ailleurs, le maire, préside le conseil d'administration de l'hôpital de Die. Quel intérêt ça a eu justement d'ouvrir ça à la population? L'engouement s'est fait rapidement, tout de suite?
L'engouement après très très rapidement, puisque nous avons eu une manifestation en décembre 86, puis une autre en février, puisque la date fatidique était le 1er mai 1987, et il y a eu un report de 3 mois. Et ensuite, il a fallu remettre ça au mois de juillet, et nous avons eu enfin une décision du ministre de l'époque qui disait le contraire de ce qu'avait dit le préfet, et qui s'appuyait d'ailleurs sur les mêmes arguments que nous avions développés.
Puisqu'il y a 300 accouchements, on peut le laisser en place, au contraire.
Voilà. Il disait, compte tenu de l'attachement des habitants à cette maternité, compte tenu de l'éloignement des autres maternités, j'ai décidé de maintenir la maternité de Die.
On va justement parler notamment de cet éloignement et puis de cet attachement que les personnes du territoire ont pour leur hôpital. Le collectif de défense de l'hôpital, c'est aussi parce que c'est une structure comme d'autres qui est régulièrement attaquée. D'une part sur ce qui devrait être son rendement économique, mais aussi par rapport à sa fréquentation.
Alors, les deux arguments qui sont employés, la question financière, et la question de la sécurité, ne cachons pas les mots, pour nous, sont nuls et non avenus. La question de l'éloignement géographique pèse lourdement. Nous sommes dits à 1h15 de l'hôpital de Valence et les communes les plus éloignées à 2h15. Donc, nous méritons bien l'appellation d'exception géographique. Ensuite, en ce qui concerne la sécurité, bien, il aurait fallu que la Cour des comptes dise « bon, ben voilà, il y a un problème, voilà ce que nous proposons pour ces hôpitaux ». Or, la Cour des comptes n'a fait aucune proposition. Mais l'hôpital de Die a fait des efforts considérables depuis 2012 pour améliorer la qualité des soins de cette maternité.
C'est-à-dire sur quel fonds d'ailleurs, puisque si...
Sur fonds propres, donc en aggravant le déficit. Il ne faut pas chercher plus. Hein. Les recettes dans un petit hôpital, elles sont bien moins importantes que dans un grand hôpital, même si la tarification à l'activité est très dure pour tous les hôpitaux.
Vous aviez évoqué aussi je ne me rappelle plus du terme exact, mais le fait que notamment, c'est souvent d'ailleurs un argument qui est pointé contre les petits hôpitaux, l'incapacité qu'ils ont à pouvoir fidéliser leurs praticiens, qui est en fait un serpent qui se mord la queue, puisqu'on ne leur donne pas une autorisation d'exploitation suffisamment longue. Et vous parliez d'un terme là, le numerus clausus.
Le numerus clausus, oui. Il n'y a pas suffisamment de praticiens hospitaliers en France, notamment en chirurgie générale, en anesthésie, en pédiatrie, en gynécologie, parce qu'ils ont mis en place ce qu'on appelle le numerus clausus en 1970, qui limitait l'accès à la profession avec ce principe complètement faux. Si on diminue le nombre de praticiens, eh bien, on diminuera les dépenses de santé. Or, tout cela s'est avéré faux.
Plus on aura de praticiens, plus on sera efficace.
Ben, bien sûr, évidemment. Que ce soit les praticiens hospitaliers ou que ce soit les médecins généralistes.
Et sur cette notion de manque de visibilité à long terme parce que les droits d'exploitation des établissements ne sont pas assez longs, y aurait-il des solutions? Par exemple, bien fusionner avec les autres hôpitaux, partager, mutualiser des praticiens?
C'est un petit peu ce qu'ils ont fait, mais Valence répond, nous n'avons pas les moyens humains et financiers de le faire. Parce que dans notre petite histoire, il faut rappeler, j'étais président du conseil d'administration à l'époque, nous nous sommes trouvés sans anesthésiste. Et donc sans anesthésiste, c'était fini. La maternité fermée, la chirurgie fermée. Et nous avons passé une convention à intérêt réciproque avec Valence, qui a reçu des moyens humains notamment, et qui a envoyé un anesthésiste à Die pendant 13 ans.
Et aujourd'hui, ça ne fonctionne plus.
Valence a perdu la moitié de ses anesthésistes.
Donc, c'est sans appel. Ceci peut-être d'ailleurs pour dire qu'il y a 3 hôpitaux dans la vallée de la Drôme. Les 3 sont directement menacés de la même manière.
Les 3 ne sont pas menacés de la même manière, mais les 3 souffrent des mêmes maux. C'est-à-dire qu'ils ont un manque de moyens qui est flagrant, que ce soit des moyens humains ou des moyens financiers.
Alors à ce sujet, vous nous avez apporté un document de la Cour, non pas de la Cour des comptes, mais plutôt de la Commission sociale.
Je ne me rappelle plus du nom de cet organisme.
L'IGAS.
Je vous laisse nous en donner connaissance.
Oui, parce que ce que nous ne comprenons pas, c'est que le rapport de la Cour des comptes qui a été demandé il y a 2 ans fasse l'impasse sur un autre rapport, qui est le rapport de l'Inspection générale des affaires sociales, et qui dit notamment à propos des petits hôpitaux, à cet égard, il est clair que la fermeture des maternités existantes à l'heure actuelle en montagne, exemple 10, 131 accouchements en 2009, etc., etc., je ne vais pas tous les passer, entraînerait une dégradation de la durée des trajets, largement supérieure à 45 minutes en moyenne, qui rend la fermeture difficilement compatible avec une notion de service public. Ça, c'est important que l'IGAS reconnaisse cette notion de service public. Ils disent aussi, pour autant, ces maternités vivent dans une perpétuelle incertitude qui ne facilite pas une maintenance correcte et un maintien, voire une amélioration de la qualité du service. Il faudrait assumer une fois pour toutes, ou en tout cas pour une durée raisonnablement longue, nous disons 5 ans, puisque les 5 ans, c'est pour tous les services, hein, le renouvellement. Le fait que si l'on veut maintenir le principe d'un accès aux soins suffisant pour tous les citoyens, il faut accepter de payer plus pour le fonctionnement de ces structures, dotations spécifiques, et diminuer les exigences en matière d'effectifs, faute de quoi on n'arrivera pas à les faire fonctionner.
Voilà.
Je crois que c'est clair.
Donc, opposition hein, entre la question sociale, le service public, la santé publique, et de l'autre côté, un rapport purement financier qui demande que des lits soient remplis et qu'on économise de l'argent sur ces lits remplis.
Absolument.
Quel type de solution le collectif de défense de l'hôpital de Die a émis, proposé pour que ceci soit mieux perçu, en tout cas peut-être par toutes ces instances contre lesquels il se bat, puisque c'est un collectif de défense.
Alors, ce que nous proposons, c'est qu'il y ait des coopérations à intérêt réciproque entre Die, Cré et Valence. Mais Cré n'a pas les mêmes
services.
Les mêmes services que nous, hein, ouais. Puisqu'ils n'ont plus de maternité et ils font de la chirurgie ambulatoire, c'est-à-dire de jour.
Par contre, c'est rigolo, on peut faire des échographies quand même chez eux, alors oui. Qu'il n'y a pas de maternité. Parce que des fois, il n'y a pas d'échographie.
Absolument, absolument. Ouais, voilà. C'est d'ailleurs un problème qui compte et qui rejoint l'attribution de moyens humains. Et puis, il y a l'hôpital de Valence. Et comme je le disais tout à l'heure, nous avons coopéré avec Valence pendant 13 ans pour l'anesthésie. Et il faut donner à Valence les moyens humains et financiers pour qu'ils puissent réellement coopérer avec nous, c'est-à-dire détacher pour un certain temps des praticiens. Déjà, l'hôpital de Die a pris des dispositions. Depuis 2012, je vais dire exactement ce qu'il y a eu de fait. D'abord, la maternité de Die ne déplore aucun incident grave et le rapport de la Cour des comptes n'est pas allé jusqu'à vérifier combien il y avait d'incidents dans les maternités de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3. Nous sommes, nous, de niveau 1.
Quand on passe 2, 3, voilà. On améliore le...
Non,
on est censé améliorer...
Il y a rien, non, non. Rien ne l'indique dans le rapport.
Oui, mais pour que nous, on comprenne, cette classification correspond à quoi ? À une maternité qui serait mieux en niveau 2, théoriquement, mieux équipée ?
Oui, et surtout en niveau 3. Hein.
Et en niveau 3, d'accord.
En niveau 3,
donc on améliore en montant l'échelle.
Où il y a des services de réanimation, de néonatologie, etc., hein, que nous ne pouvons pas avoir. Et donc, il y a eu cette sécurité. Depuis le renouvellement de décembre 2012, voici les modifications qui ont eu lieu. Présence des pédiatres, 20 jours par mois et 8 nuits par mois. Formation sage-femme à la pédiatrie en salle naissance, diplôme obtenu en 2014. Formation de réanimation néonatale par le réseau Aurore. Et par des pédiatres sur place, recrutement de 3 sages-femmes sur les fonds propres. On peut voir combien ça peut peser sur le budget. Recrutement de 3 sages-femmes pour assurer une présence des sages-femmes 24 heures sur 24 sur place, alors qu'avant il n'y avait que des astreintes. Stabilisation des médecins remplaçants en gynécologie obstétrique et en anesthésie. Réalisation des échographies morphologiques 2 fois par mois par le médecin-chef du pôle mère-enfant du centre hospitalier de Valence. Dépistage de la surdité néonatale. En ce qui concerne la gestion des risques, il y a une réunion de service qui a lieu tous les premiers lundis de chaque mois pour l'étude des dossiers et l'orientation des patientes vers un autre établissement si c'est nécessaire. Les dossiers difficiles sont étudiés avec le médecin-chef du service Paul mère-enfant du centre hospitalier de Valence. On peut dire que tout concourt à une réponse précise aux exigences qui sont exprimées.
Oui, en plus, l'hôpital de Die s'évertue quand même à suivre les conseils de la Cour des comptes, même si ils sont exsangues de la partie sociale. Et donc, la mise aux normes se fait avec des moyens en fonds propres, etc. etc. Que faire de plus, si ce n'est dire, mais non, nous n'aurons pas 3000 accouchements par an.
Non, bien sûr que non. Jamais nous n'atteindrons même le seuil des 300. On peut dire que de l'histoire de la maternité, on n'est jamais arrivé à 300 accouchements. et il n'y a eu aucun incident grave.
Ceci dit, on parle beaucoup de la maternité et d'ailleurs ça fait partie en tout cas des points d'appui importants qu'utilise le collectif de défense de l'hôpital de Die, mais si la maternité est tant menacée, menace-t-elle la fermeture des autres services ?
Évidemment.
Pourquoi donc ?
La maternité exige la présence d'un chirurgien pour les césariennes, etc. S'il n'y a plus la maternité, il n'y a plus besoin de chirurgien. Et donc, il n'y a plus de chirurgie. Et s'il n'y a plus de chirurgien, il n'y a plus non plus d'urgence. Ce qui est extrêmement important, puisque c'est le premier niveau où on traite les accidents, par exemple.
Oui, et ça, c'est un service qui tourne quand même pas mal. C'est beaucoup plus d'interventions, le service des urgences de Die, quand même.
Ah oui, tout à fait. Moi, je suis allé personnellement aux urgences. Chaque fois, j'ai attendu. Il y a beaucoup, beaucoup de monde aux urgences.
Le collectif de défense de l'hôpital de Die revient, on donne l'impression en tout cas de revenir régulièrement à la charge. Alors, on l'a expliqué tout à l'heure, parce que les durées d'exploitation sont plus ou moins longue, des fois c'est 6 mois, des fois c'est 1 an, 2 ans. Là, en ce moment, vous êtes de nouveau dans une période un peu active. C'est aussi pour ça qu'on vous reçoit une nouvelle fois à la radio. Que fait le collectif de défense de l'hôpital de Die en ce moment, Jean-Pierre Orbeau ?
Alors, tout d'abord, la maternité a obtenu, parce qu'il y a eu des luttes, soutenues par les élus, de la ministre, une autorisation de fonctionnement pour 30 mois le 15 décembre 2012.
Donc on arrive au terme.
Et on arrive à terme.
Et voilà.
Ouais. Et donc il va y avoir la réunion de ce qu'on appelle l'AXOS, la commission spécialisée de l'organisation des soins, qui va donner un avis, qui jusque-là a toujours donné un avis défavorable, parce qu'il ne supporte pas qu'il y ait des petites maternités ou des petites chirurgies. Et puis ensuite, c'est l'ARS, le directeur de l'ARS, l'Agence régionale de santé, qui prendra la décision. Il l'a déjà prise par le passé, alors qu'il y avait un avis défavorable de l'AXOS.
Ouais, il a déjà pris une décision positive, lui.
Et en 2012, le directeur de l'ARS, qui s'appelait Christophe Jacquinet, avait dit dans une interview à Hospimedia, au moment où il avait été limogé, qu'il avait obtenu du ministère de la Santé la possibilité de fermer Die. Parce que ça, Die les gênait. Dans la vallée de la Drôme, il trouvait qu'il y avait un hôpital de trop. Alors, après l'ARS, c'est la ministre de la Santé qui prendra la décision s'il y a une force suffisante, c'est-à-dire si la population se mobilise et s'il y a aussi une pression politique.
On peut imaginer que si le collectif de défense de l'hôpital de Die et donc les citoyens qui le constituent et élus et autres organismes perdaient un petit peu de son allant, l'hôpital fermerait purement et simplement.
Je dirais que depuis 1987, c'est la population qui a tranché, par son action, par ses multiples actions. Bien évidemment, le collectif a proposé, mais c'est la population qui a répondu, parce qu'il n'y a pas eu que des manifestations. Il y a eu une occupation du conseil d'administration de l'hôpital de Die. Il y a eu 24 heures passées dans le hall d'accueil. Il y a eu des blocages de trains. Il y a eu des barrages routiers. Les futures mères de famille sont allées porter plainte à la gendarmerie pour non-assistance à personne en danger. Enfin, il y a eu de multiples actions. Et c'est ces actions accumulées qui continuent de peser. Et là, nous allons peser encore le 11 avril avec une manifestation porteuse de pétitions qui ont recueilli à l'heure actuelle, mais c'est largement sous-estimé, 1300 signatures et sur Havas, 1000 signatures, 1051, j'ai regardé avant de partir.
Donc quand même, on arrivera à 2000. Ces pétitions qu'on trouve un petit peu partout dans les commerces du Diois en ce moment, on peut le rappeler.
Aucun commerçant n'a refusé. les commerçants sont partie prenante dans cette défense de la maternité. Pas qu'à Digne, puisqu'on a des gens qui signent la pétition et qui sont de l'extérieur. Et en même temps, maintenir la maternité de Digne, c'est permettre à tous les gens de cette vallée de la Drôme et du Haut-Diois de pouvoir avoir des besoins qui sont satisfaits. N'oublions pas qu'il n'y a pas que Digne et le Diois. Il y a des femmes enceintes qui viennent accoucher à Digne et qui sont de Saillant, du canton de Saillant, qui sont même du Crétois. Il y en a même, peut-être pour des raisons familiales, qui viennent d'autres départements.
Oui, il y a aussi tout le bord des Hautes-Alpes, hein, que ce soit de Luz-la-Croix-Haute jusqu'à à peu près Aspres-sur-Buëch, c'est aussi plus rapide de passer par ici. Hein. J'en connais.
Tout à fait.
Donc ce collectif de défense de l'hôpital de Digne propose une manifestation le 11 avril pour de nouveau resensibiliser quand même la population qui d'ailleurs répond toujours très activement sur cette question de la fin des 30 mois d'exploitation de la maternité de Digne. Nouvelle menace qui est donc portée sur la structure complète. Est-ce que Jean-Pierre Rambaud, alors là je m'adresse à vous qui êtes là depuis 86, est-ce que vous pensez que ça s'arrêtera un jour, que les politiques publiques dans un élan de folie peut-être disent bon bah allez on met des moyens sur ce type d'établissement et on arrête?
Vous savez, la vie est un combat.
Ah bon?
C'est
tellement triste pour les enfants qui vont arriver à naître dans cette maternité.
Mais oui, c'est vrai, ah bon. c'est toujours un combat. Et on peut dire que si on ne se bat pas, on est sûr de perdre. Si on se bat, on n'est pas sûr de gagner. Mais enfin, si on ne se bat pas, on est sûr et certain de perdre.
Il ne faut pas s'arrêter. C'est encore le message à dire sur cet hôpital en tout cas.
Ah, si j'ai un message à livrer, c'est il ne faut pas s'arrêter. Il faut continuer à faire la pression pour pouvoir obtenir satisfaction.
Et puis, ce conseil d'administration de l'hôpital de Digne est-il ouvert aux habitants, justement?
Alors, il n'y a plus de conseil d'administration depuis la loi Hôpital, Patient, Santé, Territoire.
Ah.
Il y a un conseil de surveillance qui n'a aucun poids, qui remplace le conseil d'administration.
Bon.
Par contre, un directoire qui comprend le directeur de l'établissement, le président de la commission médicale d'établissement et deux ou trois autres personnes, mais qui sont, décisifs. Et ils disent, voilà, le directoire a pris telle et telle décision, qu'est-ce que vous en pensez? Et le conseil de surveillance répond ce qu'il a envie de répondre, mais de toute façon, on n'en tient pas compte.
Ce directoire est-il pro-hôpital de Digne ou contre?
Je dirais que c'est très, très contradictoire. Il a été plutôt pour satisfaire les exigences de l'administration de santé. Actuellement, il y a vraiment une volonté de répondre à la demande de sécurité, par exemple, comme je le disais tout à l'heure. Il y a une certaine résistance à l'intérieur de l'hôpital de Digne.
Voilà, donc ils sont aux côtés de la population, en tout cas, pour rester en place.
Absolument.
C'est positif.
Ah. C'est très positif.
Terminons sur quelque chose d'agréable quand même, Jean-Pierre Rambaud. Rappelons-le, donc manifestation le 11 avril, à partir de quelle heure? Départ de où?
À partir de 10h, devant l'entrée de l'hôpital, rue de la Citadelle, mais les Diois et les Diois, ils sont habitués.
Ils sont habitués, voilà.
Et petit tour. Le trajet en fait, et oui. Nous rencontrerons Madame la sous-préfète, porteur de pétition, bien évidemment, entre 11h30 et 12h.
Et sinon, vous êtes bien sûr visible sur les marchés de Digne, et puis un petit peu partout, dès qu'il faut s'agiter, en tout cas pour continuer à rappeler aux gens qu'il ne faut pas abandonner ce combat. Donc.
Voilà, c'est-à-dire que la manifestation est une étape. Nous verrons la réponse de la XOS, puis de l'ARS, et puis de la ministre, et Bien évidemment, en fonction des résultats, nous continuerons ou nous arrêterons si nous avons satisfaction.
Donc encore quelques temps pour signer cette pétition de défense de l'hôpital de Die. Aussi, vous publiez de manière assez régulière des lettres d'information. Est-ce qu'on pourrait donner aux auditrices, auditeurs, des liens, peut-être une page internet, des endroits pour vous suivre ?
Oui, alors nous avons d'abord le journal du Diois, qui relaie très volontiers tous nos communiqués de presse, et nous en faisons un par semaine.
Voilà.
Et puis, nous avons un blog qui s'intitule « Collectif Hôpital Die » en un seul mot, .org.
Merci Jean-Pierre Rambaud.
Merci à vous.
À la très prochaine pour un nouveau communiqué de radio sur le collectif de défense de l'hôpital de Die. Et donc, bon vent pour cette manifestation du 11 avril qui, quand même, à chaque fois, ces manifestations de défense de l'hôpital, c'est assez joyeux et coloré. On peut le dire, c'est pas une manif un peu plombée et puis on casse pas les vitrines, quoi.
Tout à fait. Les gens viennent avec des panneaux qu'ils ont confectionnés. Je me rappelle, lors d'une manifestation, une énorme banderole qui est descendue au moment où on passait de la maison qui se trouve à côté du porche de la cathédrale. Hein, une énorme banderole. Les gens ont applaudi, ouais. Au passage, bien évidemment. Hein. Voilà, je crois qu'il faut il faut faire confiance dans la population, dans les Dioises et les Diois, et au-delà, ceux qui viennent nous soutenir. Et je voudrais quand même terminer par un élément important, c'est que le comité de sauvegarde de l'hôpital de Valréas est là pour nous soutenir. Dès le jour où nous avions notre assemblée générale et le débat public, ils étaient présents et ils étaient venus le matin faire signer la pétition avec nous. Et il propose maintenant, et nous verrons après le 11, parce que nous avons cette préoccupation, de faire un triangle dit Valréas apte.
Oui, parce que alors tout à l'heure, dans le magnifique communiqué de l'Institut, dont j'ai encore oublié le nom, la feuille jaune...
De l'IGAS.
vous aviez commencé à énumérer quelques hôpitaux. Apte est un hôpital menacé.
Apte est un hôpital menacé, absolument, absolument. Mais ils ont attaqué, si je me souviens bien, la ministre au tribunal administratif. Et je crois qu'ils ont gagné au tribunal administratif. En tout cas, Valréas avait gagné au tribunal administratif.
Voilà, j'allais poser cette question. Pourquoi viennent-ils vous soutenir ? Parce qu'ils ont gagné.
Mais ils n'ont pas tout. Ils n'ont pas gagné, malheureusement. Ils ont gagné au tribunal administratif. Après, ils sont allés en Conseil d'État. Et la ministre a refusé le jugement du tribunal administratif et du Conseil d'État. Et en ce moment, ils sont en train d'attaquer la ministre pour non-respect de la législation.
Die n'a jamais eu besoin d'aller aussi loin, tribunal, etc.
Non, mais nous avons constitué une réserve financière.
Au cas où.
Au cas où.
Bon. Donc déjà, les plaintes en gendarmerie, c'était déjà pas mal. Donc oui, effectivement, c'est une lutte. Belle idée que de faire une triangulation entre trois secteurs, en plus qui couvrent, si apte, si je ne confonds pas, c'est aussi un autre département. Ça ferait donc trois départements,
oui,
associés.
Tout à fait.
Merci Jean-Pierre Rambaud.
Merci à vous.
À la prochaine.
Interview.
Ok, de beurre.
L'interview du jour. L'interview du jour.